Je vais maintenant présenter notre conférencière de ce soir. Il s'agit d'Annick Loiseau, qui est d'ailleurs déjà venue en l'an 2000. Elle est née en 1957. Elle est ingénieure à l'ONERA. Elle a comme diplôme un diplôme de l'École nationale supérieure de chimie de la ville de Paris et une thèse de doctorat d'État en sciences physiques. Elle a fait sa carrière essentiellement à l'ONERA. Elle a été stagiaire et doctorante, puis ingénieure à l'ONERA à partir de 1985. Et à partir de 1991, elle est devenue maître de recherche. Elle enseigne aussi dans le cadre du DEA de métallurgie spéciale à l'Université d'Orsay. Depuis 1995, elle est directrice de recherche. Et depuis 1998, elle est co-directrice du groupe de recherche nanotubes du CNRS, conjointement avec M. Bernier, l'équipe CNRS Montpellier. Sa spécialité, c'est la physique structurale des alliages métalliques et les nanomatériaux. Et ses recherches portent tout particulièrement sur les nanomatériaux. Elle a publié de très nombreux articles dans les journaux scientifiques, Physical Review Letters, Nature, Science, etc. Et elle prépare un ouvrage consacré aux nanotubes pour les éditions Gordon & Pritch. Donc je suppose que c'est un ouvrage qui sera en anglais. C'est ça. Elle a reçu des prix et des distinctions. Je mentionne seulement le plus récent, le prix Louis Ancel de la Société française de physique en 1999. Je lui laisse donc la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite, selon les usages, vous pourrez lui poser vos questions. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. Je voudrais dire pour commencer que je suis très heureuse de me retrouver face à vous ce soir pour la suite de cette école, de cette université de tous les savoirs à laquelle j'avais eu l'honneur de participer l'an dernier pour vous parler déjà de nanotubes. Alors, les nanotubes viennent de fêter leurs 10 ans d'existence en novembre dernier. Et c'est un domaine de recherche qui a connu une explosion extraordinaire depuis cette découverte, depuis leur découverte. Les nanotubes sont en passe d'envahir un certain nombre de domaines de recherche en physique, en chimie, et ont des connexions avec les sciences du vivant. Alors, l'évolution est si rapide que c'est très difficile de faire une photo à l'instant T du domaine. Et juste pour citer un chiffre, en France, il y a 4 ans, à peine 12 laboratoires de recherche avaient publié des résultats sur les nanotubes. Et maintenant, plus de 45 laboratoires travaillent et publient sur des recherches sur des nanotubes. Donc juste un chiffre pour vous donner un petit peu l'ampleur de l'expansion de ce domaine. Il est clair que depuis un an, les progrès ont été considérables dans les recherches et dans les résultats obtenus, et on se rapproche de plus en plus sûrement du moment où les nanotubes seront réellement utilisés dans des applications nanotechnologiques. Ils sont en passe de devenir une espèce de figure emblématique de ce qu'on appelle le nanomonde des sciences et technologies. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est d'essayer évidemment de vous expliquer pourquoi ces nanotubes sont si intéressants et pourquoi ils mobilisent tant de monde, tant de chercheurs au travers du monde. Alors, pour vous expliquer cela, eh bien, il faut remonter à la publication originale de Sumio Ijima, qui est un professeur japonais qui travaillait à la société NEC et qui a publié en 1991 dans la revue Nature c'est les photos que vous voyez ici. Alors, ce sont des images de microscopie électronique qui correspondent à un agrandissement de 1 million par rapport à l'objet réel. Et en quoi consistent ces images? Eh bien, vous voyez, en fait, chaque image consiste en une série de lignes qui sont symétriquement disposées par rapport à un axe. Alors là, vous en avez 5, là 2, là 7. Et en fait, Ijima a interprété ces images comme étant celles d'objets tubulaires concentriques qui sont schématisés ici. Et ce que vous voyez sur ces images, eh bien, c'est chaque tube est représenté par deux lignes symétriquement disposées par rapport à l'axe. Et donc, en comptant le nombre de lignes, eh bien, vous obtenez immédiatement le nombre de tubes qui compose ce qui a été appelé un nanotube multifeuillet. Alors, en soi, l'observation d'un objet tubulaire n'est pas extraordinaire. Par contre, ce qui l'est, ce sont ses dimensions. En effet, si on regarde leur longueur peut atteindre, va de 0,5 à 10 microns, typiquement, alors que leur diamètre est de l'ordre du nanomètre. Alors, le nanomètre, c'est le millième de micron. C'est également, cela signifie que l'on a affaire à un objet qui est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Le nanomètre, c'est également l'ordre de grandeur de la molécule d'ADN. Donc vous voyez que nous avons affaire à un objet. Nous avons affaire à un objet qui est en fait de la taille d'une molécule. Bon, excusez-moi, je ne maîtrise pas tout. Voilà. Qui a la taille d'une molécule. Et cette molécule, c'est un cristal de carbone. Et quand j'ai dit ça, eh bien, j'ai décrit un objet unique. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est pourquoi cet objet est unique. Alors, pour comprendre tout ceci, nous allons suivre le fil de l'exposé qui est inscrit sur cet écran, en suivant quatre questions successivement. Décrire la structure d'un nanotube et la façon dont on l'observe, comment on synthétise les nanotubes, quelles sont leurs propriétés, de façon à pouvoir discuter et présenter les perspectives pour la science et les applications de ces objets. Alors, je vais commencer par la structure des nanotubes. Donc, pour comprendre l'originalité de ce cristal, il faut faire un petit retour en arrière sur les différentes formes cristallines du carbone jusqu'en 1900, qui correspondaient à la situation qui était la situation du carbone jusqu'en 1985. Alors, jusqu'en 1985, on connaissait deux formes cristallines du carbone qui étaient d'une part le graphite. Alors le graphite, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une structure qui est composée d'un empilement de plans d'hexagones. Concrètement, c'est un solide noir très friable. La deuxième forme cristalline qui était connue, c'est le diamant, qui est au contraire un solide très dur, très dense et transparent. En 1985, cette situation a été profondément modifiée par la découverte d'une nouvelle forme de carbone qu'on a appelée fulrène. Alors, le fulrène, c'est l'entité qui est dessinée ici. C'est une molécule qui contient 60 atomes de carbone qui sont disposés au sommet d'un polyèdre dont les facettes sont des hexagones et des pentagones. Alors, les hexagones, ce sont exactement les mêmes que ceux que nous avons dans la structure du graphite. Donc, nous voyons apparaître une première filiation ici entre le graphite et cette molécule. La filiation est encore plus évidente quand on envisage le nanotube. Le nanotube, eh bien, c'est tout simplement un plan de la structure de graphite que l'on a enroulé de façon à former un cylindre. Alors, puisque c'est le plan de graphite qui nous occupe, c'est cet objet que je vais commencer par vous décrire. Donc, le graphite, comme je disais, c'est un empilement de plans d'hexagones. Dans chaque plan, chaque atome de carbone est relié à trois voisins par trois liaisons planaires qui font entre elles un angle de 120 degrés. Ces liaisons sont extrêmement fortes, ce qui se traduit par une distance carbone-carbone de 0,14 nanomètres, ce qui est très petit. Et une autre façon d'apprécier la force de cette liaison, c'est qu'il faut chauffer jusqu'à 3000 degrés pour casser cette liaison chimique. Par comparaison, il suffit de chauffer l'aluminium à 650 degrés pour casser la liaison entre les atomes d'aluminium dans un cristal d'aluminium. Donc vous voyez toute la différence. Les atomes, par contre, sont faiblement liés les uns aux autres entre les plans adjacents, ce qui se traduit par une distance entre les plans qui est beaucoup plus grande que la distance carbone-carbone dans le plan. Et de fait, à cause de cette anisotropie, eh bien, la densité du graphite est faible et en fait 2/3 de celle du diamant. Alors, nous voyons que nous avons affaire à un solide très anisotrope et qui est en fait quasi bidimensionnel. Alors, passons maintenant au tube. Le tube, comme je vous l'ai dit, eh bien, en fait, c'est une histoire d'enroulement d'un plan de graphite qu'on appelle graphène en tube. Alors, une façon géométrique de construire ce tube, eh bien, c'est de dessiner, de tracer deux lignes parallèles sur un plan d'hexagone et puis de découper une tranche suivant ces deux lignes. La bande que l'on obtient, eh bien, on l'enroule sur elle-même de façon à obtenir le tube que vous avez ici. Alors, on ne va pas obtenir le même résultat suivant la façon dont on a tracé les lignes sur le plan de graphite, c'est-à-dire suivant la façon dont ces lignes sont orientées par rapport au réseau d'hexagones. Et pour repérer cette orientation, eh bien, il suffit de repérer, de déterminer l'angle qu'il y a entre l'axe du tube et une rangée de référence et une droite de référence que l'on choisit s'appuyant sur un côté de l'hexagone. Cette droite de référence est définie à 30 degrés près. Et en fait, l'angle θ définit complètement la configuration du tube que l'on obtient, et c'est ce qu'on appelle l'angle d'enroulement de la feuille de graphène. Alors, quand on considère toutes les configurations possibles que l'on peut obtenir de cette façon, eh bien, on peut les classer en trois catégories. La première catégorie correspond à ce qu'on appelle au tube zigzag. Alors, vous voyez ici un tube ouvert, et si vous regardez ici le bord de la lèvre du tube ouvert, vous voyez que ça forme un zigzag, d'où son appellation. Cette configuration est caractérisée par un angle d'enroulement de 0 degré. La deuxième catégorie de tube est celle qui apparaît ici, où maintenant, si vous considérez la lèvre du tube, eh bien, vous voyez qu'elle a une forme de créneau, d'où son appellation. En anglais, on ne l'appelle pas créneau, on l'appelle armchair. Cette catégorie est caractérisée par un angle d'hélicité de 30 degrés, qui est donc l'angle maximum d'enroulement. Toutes les autres configurations sont celles qui apparaissent ici, qu'on appelle chirales, avec des angles intermédiaires entre 0 et 30 degrés. Alors, pourquoi chirales ? Eh bien, si vous regardez cette configuration, vous voyez que les atomes d'hexagone ne sont pas tous orientés de la même façon vis-à-vis de l'axe du tube, alors que c'est le cas pour les deux autres configurations. Une autre façon de le voir, c'est de considérer une vue debout de ce tube. Vous voyez que les hexagones, ici, forment une vis, forment une vrille, qu'on appelle une vis d'Archimède, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Maintenant que nous avons envisagé donc l'opération d'enroulement, il nous reste à comprendre la fermeture des tubes. Alors, si je prends une feuille d'hexagone et puis que j'essaye de la tordre pour fermer l'extrémité ici, je ne vais pas y arriver parce qu'il va falloir que je distorde considérablement les hexagones. Pour s'en sortir, eh bien, il faut en fait introduire des défauts topologiques. Et les défauts topologiques qui conviennent bien, ce sont des défauts qui correspondent à des pentagones, comme vous le voyez ici. Alors, quand j'introduis un pentagone dans un réseau plan d'hexagones, j'introduis une courbure, comme vous voyez, sur cette vue de profil ici. Et au fur et à mesure que j'introduis de nouveaux pentagones, je vais fermer la surface, qui était un plan au départ, comme une coquille, de façon à former progressivement un polyèdre. Et je ferme complètement le polyèdre en ajoutant exactement 12 pentagones. Alors, considérons mon tube. Eh bien, un tube, l'extrémité d'un tube revient à fermer un demi-espace, et donc je n'ai besoin d'introduire que 6 pentagones qui se répartissent sur la surface de l'extrémité de façon à former un cône. Ces cônes, nous les observons expérimentalement, comme vous le voyez sur cette image haute résolution, d'un nanotube multifeuillet. Vous reconnaissez ici les lignes qui correspondent aux différents feuillets, et vous voyez ici la forme projetée de ce cône dans le plan d'observation que vous avez ici, et à chaque fois que vous avez un changement de courbure, eh bien, ça correspond à la localisation de pentagone. Alors, il y a d'autres types de défauts que l'on peut introduire dans le réseau d'hexagones, qui sont par exemple des heptagones. Alors, les heptagones vont introduire une courbure différente. Ces heptagones s'observent également dans les nanotubes. En particulier, si j'introduis dans un nanotube deux défauts, un pentagone ici, un heptagone ici, de façon à ce qu'ils soient disposés diamétralement opposés sur le nanotube. Eh bien, ce couple de défauts crée un coude, donc va changer la géométrie du tube. Mais ce couple de défauts ne fait pas que ça. Il va aussi changer l'hélicité du tube. La partie haute, si vous regardez le bord de la lèvre, est un tube zigzag, alors que la partie basse, après le coude, est un tube créneau. Et ceci va être assez important quand on va considérer certaines propriétés. Vous avez ici une image, de nouveau une image de microscopie électronique d'un tube, alors qui contient cette fois-ci un seul feuillet, vous n'avez qu'une ligne, et toutes les ruptures d'orientation correspondent à la présence de pentagones ou d'heptagones. Alors, suivant les conditions de synthèse que je vais aborder dans quelques instants, les tubes s'auto-organisent de façon différente. Alors, la première façon de s'organiser correspond au tube multifeuillet que Ijima a découvert en 1991, que je rappelle ici. La deuxième organisation que les tubes peuvent adopter pendant la synthèse est celle qui correspond à un faisceau tel qu'il est dessiné ici. Ce faisceau est en fait constitué d'un certain nombre de tubes qui sont tous monofeuillets, qui ont à peu près tous le même diamètre et qui sont empilés de façon périodique, comme on le voit sur ce schéma. Alors, les faisceaux, à quoi ressemblent-ils? Eh bien, à bas grandissement, ils ressemblent à ces filaments. Ce sont ces filaments qui forment des entrelacs, comme une pelote de cheveux ou un plat de spaghetti, comme vous voulez, très emmêlés les uns avec les autres. Alors, l'image suivante vous montre une autre vue de ces entrelacs. Et vous voyez que grâce à la flexibilité des tubes, on va pouvoir observer ces nanotubes, la structure de ces nanotubes, suivant différents axes d'orientation. Si je considère le tube qui est tout là-haut, qui est replié, eh bien, je vais pouvoir le considérer dans une projection le long de son axe correspondant à l'angle de vue, la direction de vue que vous avez ici sur ce schéma. Et voilà ce qu'on obtient en microscopie électronique quand on regarde un faisceau orienté de cette façon. On obtient en fait une image de la structure de sa section. Et vous voyez apparaître tous les nanotubes qui composent ce faisceau. Chaque nanotube en fait est visualisé par un cercle noir et vous voyez en fait que tous les tubes sont effectivement bien monofeuillets et de diamètre tout à fait uniforme et empilés de façon périodique. Une autre façon d'observer ces faisceaux, aïe, ça se dégrade. Une autre façon d'observer ces défauts, non, c'est de les observer dans une projection en fait perpendiculaire à l'axe des faisceaux. Et c'est ce que vous avez sur cette image. Vous avez en fait une image où vous voyez plusieurs faisceaux. Et si je m'intéresse à un faisceau qui est ici, il est visualisé par une série de lignes. Ces lignes correspondent à la projection de ces rangées de tubes dans la direction de visualisation. Donc j'ai fini de décrire la structure des nanotubes. Voyons maintenant comment ils sont synthétisés. C'est l'objet de la deuxième partie de cet exposé. Et en fait, les voies de synthèse qui ont été développées depuis 10 ans peuvent se classer en deux catégories, les voies haute température et les voies moyenne température. Alors commençons par les voies haute température. Le principe de toutes ces méthodes, c'est de vaporiser une cible à une température supérieure à 3000 degrés, ce qui justifie l'appellation haute température, et de condenser la vapeur obtenue dans un gradient de température sous une atmosphère d'un gaz inerte tel que l'hélium ou l'argon. Les produits obtenus, eh bien, je vous ai dit qu'il y avait des nanotubes multifeuillets, qu'il y avait des nanotubes monofeuillets. Eh bien, pour obtenir les nanotubes multifeuillets, la cible doit être du graphite pur. Pour obtenir des nanotubes monofeuillets, il faut nécessairement ajouter un catalyseur métallique au graphite en très faible pourcentage, quelques pourcents, ce catalyseur métallique étant un métal tel que ceux qui sont listés ici, du nickel, cobalt, fer ou yttrium, lanthane, ou mieux encore, un mélange de ces métaux. Alors, depuis la découverte des nanotubes, plusieurs méthodes de vaporisation ont été développées et je vais vous les décrire rapidement. La première d'entre elles est la méthode historique, je dirais, puisque c'est celle qui a permis la découverte des nanotubes. Elle consiste à établir un arc électrique entre deux électrodes, l'une la cathode et l'autre l'anode. L'anode est consumée et la vapeur issue de cette anode se condense sur la cathode. Alors, cette méthode a été développée originellement par un groupe allemand et a permis donc la découverte des nanotubes. C'est une méthode extrêmement souple, très flexible, peu coûteuse, facile à mettre en œuvre. Et elle a été développée en France dès 1992 par deux groupes pionniers à l'École polytechnique et au CNRS à Montpellier. Et à l'heure actuelle, le groupe en France donc, qui travaille le plus sur cette méthode, c'est le groupe à Montpellier, qui a conduit à la création d'une start-up nommée NanoLedge, créée en 2001, qui produit et commercialise des nanotubes suivant cette méthode. Alors, je vous montre une vue de la chambre d'expérience une fois qu'on a réalisé la synthèse. Ce que vous voyez au centre ici, c'est la cathode avec tout le dépôt ici autour. Vous voyez, c'est une espèce de toile d'araignée ou d'un dépôt pas très propre. Et en fait, ces toiles d'araignée eh bien, sont bourrées de nanotubes. La deuxième méthode qui a été développée utilise l'ablation laser. En fait, on bombarde une cible avec un laser. Cette méthode, c'est celle qui a été développée par Richard Smollett, en particulier, à l'université de Houston, aux États-Unis. Dans le dispositif qu'ils ont monté, ils utilisent un laser pulsé, ce qui les contraint à utiliser un four porté à des températures autour de 1100-1400 degrés pour créer le bon gradient de température propice à la croissance des nanotubes. Alors, il est possible de ne pas utiliser ce four en utilisant non pas un laser pulsé, mais un laser continu, et c'est la voie que nous avons choisi de développer à l'ONERA, où je travaille. Donc, vous avez ici le dispositif schématique. Donc, le laser chauffe la cible qui est vaporisée, et la vapeur se condense ensuite dans la chambre. Et je vous montre ici une photo du dispositif avec donc le réacteur en fonctionnement. Vous voyez ici la vapeur qui s'échappe de la cible et qui est en train de se refroidir. La dernière méthode que l'on peut classer dans les méthodes haute température est celle qui utilise l'énergie solaire. Alors, puisqu'il s'agit de fournir de l'énergie, pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire ? Et c'est ce qui a été fait à Odeio, dans les Pyrénées, où, vous savez, il y a toute cette installation de panneaux solaires avec cette grande parabole qui concentre les faisceaux ici en son foyer. Et donc le four, l'installation de synthèse des nanotubes a été placée au foyer de cette parabole. Donc vous avez le schéma ici, donc c'est ici vous avez le creuset. Donc les rayons solaires sont concentrés ici, ils vaporisent la cible, et comme dans les méthodes précédentes, la vapeur se condense pour former des nanotubes, et vous avez ici des photos de la chambre de réaction avec la cible en cours de vaporisation. J'en arrive maintenant aux méthodes moyenne température. Alors le principe de ces méthodes, en fait, consiste à décomposer un hydrocarbure tels que l'acétylène, l'éthylène ou le méthane, en phase vapeur à la surface de particules métalliques, le tout dans un four. Le four est emporté à des températures de 500-1200 degrés, donc vous voyez que le niveau de température est beaucoup plus faible que dans les méthodes précédentes. Alors, ces méthodes, en fait, sont très similaires à celles qu'on utilise dans la synthèse des fibres de carbone que l'on fabrique à l'échelle industrielle depuis une trentaine d'années. Donc, le terme générique pour désigner ces méthodes, c'est décomposition catalytique en phase vapeur. Ce qu'on désigne sous le vocable CVD en anglais pour Catalytic Vapor Deposition. Et dans la suite de mon exposé, quand je ferai référence à ce type de méthode, j'utiliserai le vocable CVD qui est très pratique à utiliser. Alors, les particules dans ces dispositifs peuvent être soit déposées sur un substrat, ce qui correspond au schéma de réacteur qui est présenté ici, soit préparé in situ par décomposition d'un organométallique et ventilé ensuite dans le four où elles réagissent avec l'hydrocarbure. Dans tous les cas, ce que vous avez, c'est que les tubes poussent à partir de ces petites particules métalliques, comme on le voit sur ces schémas très simplifiés, qu'il s'agisse de nanotubes monofeuillets ou de nanotubes multifeuillets. Alors, ce qui différencie le mode de croissance pour obtenir l'un ou l'autre, c'est la température du four que l'on va utiliser. Pour obtenir un nanotube multifeuillet, il faut utiliser des températures sensiblement plus faibles que pour obtenir les nanotubes monofeuillets. Alors, ce qui est très sympathique avec cette technique, c'est qu'en fait, elle est très souple, on la connaît très bien, et on sait l'utiliser à l'échelle industrielle, ce qui n'est pas le cas des autres méthodes. Alors, pourquoi très souple ? Eh bien, parce qu'on peut... on a une grande souplesse dans le choix des substrats, leur nature chimique, et dans la façon dont on va distribuer le catalyseur, donc les particules de catalyseur, à la surface de ces substrats. Et nous verrons tout l'intérêt, tout le profit que l'on peut faire de cette souplesse dans la suite pour faire pousser des tubes de façon contrôlée en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire dans les applications. Le prix à payer pour cette souplesse, eh bien, c'est que les nanotubes présentent souvent beaucoup de défauts, ce qui n'est pas le cas des nanotubes que l'on fabrique par les méthodes haute température. Donc si on veut des tubes très beaux, très bien cristallisés, on aura peut-être tendance à préférer les méthodes haute température et on privilégiera à ce moment-là les voies de synthèse utilisant l'arc électrique qui sont les moins onéreuses. Voilà, j'en arrive maintenant à ce que vous attendez tous, bien sûr, ce sont les propriétés des nanotubes. Et pour bien comprendre les propriétés des nanotubes, eh bien, il faut repartir du graphite, puisque c'est bien de ça dont dérive le nanotube. Alors, vous vous rappelez que le graphite, c'est donc un solide très anisotrope, quasi bidimensionnel, ce qui signifie que l'essentiel des propriétés vont être contenus dans le plan de graphite. Alors la première de ces propriétés, eh bien, ce sont les propriétés de conduction électrique. Et en fait, là, eh bien, pour le graphite, elles sont médiocres. Le graphite est un mauvais conducteur et en fait, c'est un semi-métal. Alors pour bien comprendre ce que ça veut dire, il faut considérer pour bien comprendre l'origine de la conduction, il faut revenir sur des concepts de structure d'électrons dans les solides. Alors, vous savez que les électrons, ce sont des particules chargées négativement, qui ont une énergie E, et c'est aussi des ondes dont le comportement s'étudie à l'aide de la mécanique quantique. Alors, considérons les électrons d'un atome, tout seul pour commencer. Eh bien, vous savez qu'ils ne peuvent pas adopter n'importe quelle énergie. Ils adoptent des niveaux d'énergie qui correspondent à des valeurs discrètes sur une échelle en énergie telle qu'on voit ici. Pour chaque niveau, on va pouvoir placer un certain nombre d'électrons. Donc, pour chaque niveau, on a ici pour le niveau E1, V1 place, niveau E2, V2 place, etc. J'associe à cet atome un deuxième atome de façon à former une entité moléculaire. Eh bien, ce qui se passe, c'est que chaque niveau atomique va se scinder en deux niveaux sur lequel je vais placer les électrons, chacun avec chaque niveau à un nombre de places bien défini. Quand j'augmente le nombre d'atomes, eh bien, je vais continuer à subdiviser les niveaux atomiques qui vont devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus serrés. Et quand je n'arrive au solide, c'est-à-dire à une très grande quantité d'atomes, eh bien, vous voyez que les niveaux atomiques sont devenus des bandes d'énergie en fait, correspondant à des suites de niveaux extrêmement serrés. Alors, il peut arriver que ces bandes d'énergie se recouvrent, comme ce que vous voyez ici, ou qu'elles ne se recouvrent pas, et à ce moment-là, dans la zone entre les deux bandes, vous avez une zone interdite en énergie pour les électrons. Le passage de niveau atomique à ces bandes d'énergie signifie que les ondes électroniques, en fait, deviennent délocalisées dans le solide. Alors, comme dans le cas de l'atome, on place les électrons depuis les plus basses énergies jusqu'aux énergies les plus élevées, jusqu'à ce qu'on ait épuisé complètement le nombre d'électrons. On appelle niveau de Fermi le dernier niveau rempli. Alors, dans précisément la forme des bandes que je vous ai schématisées ici de façon très simpliste, dépend très étroitement de la structure cristalline et de la nature chimique des atomes du solide et ne peut se calculer et s'appréhender qu'à l'aide de la mécanique quantique. En tout état de cause, les propriétés de conduction vont dépendre directement du remplissage des bandes, comme on va le voir maintenant. Donc la première situation est celle que l'on peut schématiser ici, où j'ai deux bandes et le niveau de Fermi arrive au milieu d'une bande. Eh bien, vous voyez que dans cette situation, les électrons, dès qu'ils sont, ils reçoivent une excitation énergétique infime, telle que l'agitation thermique à température ambiante, peuvent sauter dans des niveaux vides. Et cette délocalisation est à l'origine de la conduction électrique dans les solides. C'est exactement la situation que l'on a dans un métal. Et plus on a d'électrons qui peuvent sauter dans ces niveaux vides, plus la conduction est facile. La deuxième situation, c'est celle qui est schématisée ici, où maintenant le dernier niveau électronique occupé, ici, est en haut d'une bande. Et là, eh bien, les électrons sont coincés, ils sont bloqués. Même si on leur apporte une petite énergie, eh bien, ils ne vont pas pouvoir s'échapper puisqu'ils ne peuvent pas occuper les états d'énergie ici qui sont dans la bande, que l'on appelle une bande interdite ou gap en anglais. Et les propriétés de conduction vont dépendre de la largeur en énergie de cette bande ou de ce gap. Si on a un grand gap, là, il n'y a rien à faire, la conduction est impossible, nous avons affaire à un isolant. Si on a un petit gap, eh bien, il sera possible d'obtenir une conduction en apportant de l'énergie. C'est ce qui définit les semi-conducteurs. Alors, qu'en est-il du graphite ? Eh bien, le graphite, il est dans une situation intermédiaire parce qu'il a un gap quasi nul. C'est ce qui définit un semi-métal. Alors, qui veut dire gap quasi nul ? Veut dire que la situation va pouvoir être facilement perturbée, soit par des impuretés chimiques, soit par des déformations géométriques, qui vont soit rendre le graphite plus conducteur, ou au contraire moins conducteur. Continuons à décrire les propriétés du graphite. Bon. Qui sont d'une part les propriétés mécaniques, qui sont très fortes dans le plan, avec un module d'élasticité. Alors le module d'élasticité, c'est la réponse, c'est la raideur du matériau à une sollicitation mécanique qui est très élevée, de l'ordre de 1000 gigapascals, alors que les propriétés mécaniques sont extrêmement faibles hors du plan. Vous voyez, le module d'élasticité est beaucoup plus faible. Bon, ceci ne fait que traduire ce qu'on constate facilement de la friabilité du graphite. Enfin, les dernières propriétés remarquables du graphite sont ses propriétés thermiques, qui sont beaucoup plus intéressantes dans le plan que hors du plan. Eh bien, nous sommes maintenant tout à fait armés pour aborder les propriétés des nanotubes. Les propriétés des nanotubes vont en fait être... pourquoi j'ai plus rien ? Vont en fait être la résultante de la conjugaison de deux effets. La première chose, eh bien, c'est la liaison chimique du graphite. Alors vous avez vu que c'est une liaison très simple, une liaison très stable, puisque il faut chauffer à au moins 2800 degrés pour la casser. Et donc on va bénéficier de toutes les propriétés physiques dans le plan du graphite. Le deuxième ingrédient, eh bien, ce sont les singularités apportées par les effets de courbure et de réduction de dimension, qui vont être les perturbations dans le plan du graphite et qui vont modifier et moduler les propriétés physiques de ce plan de graphite. Et cet ensemble d'ingrédients, cette conjugaison d'effets, c'est ça qui fournit un cocktail unique de propriétés, comme on va le voir maintenant. Alors, commençons par les propriétés électriques, qui sont parmi les propriétés les plus importantes des nanotubes. Eh bien, en fait, suivant l'hélicité, c'est-à-dire, vous vous rappelez, suivant la façon dont on a enroulé la feuille de graphène en tube, eh bien, on va obtenir un tube qui sera métallique ou semi-conducteur. Alors, comment cela peut-il se comprendre ? Eh bien, je vous ai dit que les propriétés de conduction du graphite peuvent être modifiées lorsqu'on perturbe le plan de graphite. Eh bien, ici, la perturbation, c'est précisément la courbure induite par l'état tubulaire. Et la géométrie tubulaire modifie les électrons, les états possibles de ces électrons. Une autre façon de dire, c'est de dire que les ondes électroniques sont maintenant confinées à la surface des nanotubes. Elles ne peuvent plus, elles n'ont pas les mêmes capacités de délocalisation que ce que l'on avait dans le plan de graphite. Et le résultat, eh bien, suivant la façon dont on a enroulé le plan pour former un tube, on va obtenir un tube métallique ou un tube semi-conducteur. Et quand on envisage toutes les hélicités possibles, un tiers des tubes est métallique et un tiers des tubes et deux tiers sont semi-conducteurs. Donc, le résultat très important qu'il faut avoir en tête est que l'hélicité contrôle le caractère conducteur des nanotubes. L'effet est d'autant plus sensible que le diamètre est petit. Et il faut aussi avoir tout à fait en tête que le gap ou la bande interdite des tubes semi-conducteurs est tout à fait de l'ordre de grandeur du silicium ou du germanium, qui sont des éléments clés dans l'industrie, dans la microélectronique. Alors, la propriété suivante qu'il faut envisager... ce que je vous ai raconté, c'est le résultat de calculs théoriques. Et ce caractère conducteur ou semi-conducteur des tubes a été montré il y a 3-4 ans à peu près, grâce à la microscopie à effet tunnel. Alors l'effet tunnel, la microscopie à effet tunnel, qu'est-ce que c'est ? Le principe est schématisé ici. En fait, on considère une surface et on approche une pointe très très fine qui forme la sonde. Alors on l'approche à une distance très très petite de la surface, c'est-à-dire à quelques dixièmes de nanomètre de la surface, et on balaye la surface avec cette sonde. On applique un potentiel de quelques volts entre la pointe et la surface. Et en fait, quand on approche la pointe à quelques dixièmes de nanomètre de la surface, ce qui se passe, c'est que la pointe pénètre dans le nuage électronique des atomes de la surface. Et des électrons de ces nuages vont pouvoir s'échapper et aller vers la pointe, la pointe de l'appareil. Donc, cette circulation d'électrons correspond à ce qu'on appelle un courant tunnel. Alors, en balayant la pointe à la surface ici, eh bien, on obtient une cartographie du courant tunnel qui est une image des atomes de la surface. Ceci correspond au premier mode, qui est le mode imagerie, auquel on a accès avec la microscopie à effet tunnel. Le deuxième mode est un mode spectroscopique qui consiste à considérer la variation du courant qui provient d'un atome donné de la surface en fonction du potentiel. Et cette variation, en fait, fournit une analyse de ces états électroniques, ce qui permet en fait de déterminer la structure de bandes d'énergie autour du niveau de Fermi. Et c'est exactement ce que l'on a fait pour les nanotubes. Alors, vous voyez ici une image effet tunnel d'un nanotube. Les maxima d'intensité sont en fait la distribution des maxima d'intensité est tout à fait corrélée aux positions des atomes, et voici ici la représentation schématique du tube dont on a l'image ici. Donc on détermine son hélicité de cette façon. Et l'analyse spectroscopique de ce type de tube a permis de vérifier la corrélation prédite théoriquement entre le caractère métallique et semi-conducteur des tubes. Alors, le deuxième type de propriété qu'il faut envisager, ce sont les propriétés mécaniques. Et là, on bénéficie de la qualité des propriétés mécaniques du plan de graphite. Les nanotubes ont un module d'élasticité supérieur à 1000 GPa. ce qui est 100 fois plus que l'acier. Donc vous avez un matériau qui est extrêmement résistant à la déformation. Et cette qualité est alliée à une très grande flexibilité. Alors voyons, vous imaginez bien que pour déterminer un module d'élasticité, sur un objet qui est aussi petit, ce n'est pas très facile, ce n'est pas très évident de concevoir une expérience de déformation de ces objets. Plusieurs expériences ont cependant été faites et je vous décris celle qui a pu être obtenue en utilisant un microscope à force atomique. Alors le principe de ce microscope est schématisé ici. En fait, de nouveau, on considère la surface d'un échantillon et on approche une pointe très fine qui forme la sonde et qui balaye la surface. Et dans ce cas, on mesure la force de la pointe sur la surface. Et la mesure de cette force fournit une image topographique de la surface, telle que celle que vous avez ici. Cette image, en fait, donne le dispositif qui a été utilisé pour mesurer le module d'élasticité. Ce que vous voyez ici, c'est le tube qui repose sur une surface à trous. Et on s'est débrouillé pour placer le tube à cheval sur le trou. Et donc, d'un point de vue mécanique, c'est comme si on avait une poutre posée sur deux appuis. Et avec la pointe du microscope, ce que nous faisons, eh bien, c'est d'appuyer sur cette poutre de façon à la fléchir. Et on mesure l'amplitude de fléchissement. Et c'est la mesure de cette amplitude, en fait, donne une mesure du module d'élasticité. Et on a tout à fait vérifié de cette façon les modules d'élasticité que je vous ai annoncés. Cette planche vous illustre les propriétés de flexibilité. Vous voyez qu'il est possible d'obtenir des tubes qui sont fortement courbés sans que l'on ait altéré la structure. Il est possible également de les tordre le long de leur axe ou de les plier, comme vous le voyez ici sur ces simulations numériques, mais qui correspondent à des configurations qui ont été observées expérimentalement. Alors, la propriété suivante concerne les propriétés chimiques. Il a été montré depuis 10 ans qu'il était possible de remplir par capillarité des cristaux, des molécules. Il est possible d'absorber des gaz. Il est également possible de greffer des molécules à la surface. Donc toute une chimie qui utilise soit la surface, soit la cavité intérieure du tube. Alors je vous illustre ces possibilités à propos du remplissage. Vous voyez ici différents types de remplissage. À gauche, des remplissages de nanotubes multifeuillets. Alors, vous reconnaissez le tube multifeuillet par la série de lignes symétrique par rapport à l'axe du tube. Et vous voyez que maintenant, la cavité intérieure du tube est remplie par un cristal. Et ce cristal ici, vous en avez l'image de sa structure cristalline. Il s'agit en l'occurrence d'un nickel, d'un oxyde de nickel. Vous avez un autre exemple ici qui a été obtenu à l'ONERA en collaboration avec l'École Polytechnique et qui correspond à un monocristal de cuivre, de chrome. Il est possible d'obtenir également des remplissages pour des tubes monofeuillets. Comme vous le voyez sur cette planche, vous avez un tube ici, monofeuillet, une seule ligne, une seule série de lignes qui correspond à ce tube, et il est complètement rempli par un cristal qui est en fait un iodure de potassium. Et vous avez ici une représentation de la section de ce cristal de iodure de potassium. Alors, ceci concerne le remplissage par des cristaux. Il a été montré qu'il était possible de remplir les tubes également par des molécules. Et précisément, les molécules de fullerène dont je vous ai parlé au début. Vous vous rappelez, ces molécules qui contiennent 60 atomes de carbone disposés à la surface d'un polyèdre constitué de pentagones et d'hexagones. Eh bien, l'image que vous avez ici, c'est un nanotube qui est rempli par ces molécules qui sont rangées comme un collier de perles. Et vous avez ici une image qui vous montre que l'on est capable de remplir une très grande quantité des tubes par des techniques qui sont en fait assez simples. Alors on a fait encore mieux. On sait maintenant insérer des atomes à l'intérieur de la molécule de ces 60. En l'occurrence, des métaux lourds comme du gadolinium. Et on sait remplir les tubes avec ces fullerènes fourrés, si je puis dire. Alors, l'image du haut vous montre ces nanotubes Et l'atome de gadolinium, en fait, c'est le petit point noir que l'on voit ici. Alors, c'est pas très facile de le visualiser. Et une façon de le visualiser, mais on ne voit rien du tout, parce que le rose sort très très mal, a été d'obtenir des cartographies chimiques qui, avec un mode spectroscopique de microscopie électronique, et sur cette image, vous voyez le carbone en bleu, et vous devriez voir les atomes de gadolinium en rose. La dernière propriété qui est tout à fait intéressante pour les nanotubes, ce sont les propriétés d'émission. Le nanotube, c'est un objet très fin qui est doté d'une extrémité qui est donc très fine. Et donc, elle est tellement fine qu'on peut considérer le nanotube comme une pointe, et c'est une pointe qui est une des plus fines qui soit. Eh bien, cette pointe a des propriétés d'émission sous champ électrique qui sont absolument remarquables. Alors, que veut-on dire par émission sous champ ? Eh bien, en fait, on applique une tension entre un émetteur et une contre-électrode, et les électrons de l'émetteur, dont l'énergie est très proche du niveau de Fermi, eh bien, sont extraits par effet tunnel. Alors, le courant en question, donc le courant d'émission, dépend d'un certain nombre de choses, mais en particulier, il est d'autant plus important que le rapport longueur sur diamètre de l'émetteur est grand. Et avec le nanotube, eh bien, on tient l'émetteur d'électrons le plus efficace qui soit. En effet, c'est le champion toute catégorie. Son rapport d'aspect est idéal, puisqu'il est supérieur à 1000. Avec un objet d'une largeur de 1 nanomètre, on sent bien qu'on tient du point de vue géométrique un objet idéal. Et qui plus est, le nanotube émet des électrons pour des potentiels beaucoup plus faibles que tous les émetteurs classiques. Par exemple, il y a un facteur 100 sur la tension seuil d'émission comparé à une pointe de molybdène. Enfin, le nanotube peut donner des courants d'émission très élevés, et il est très stable, l'émission est très stable en fonction du temps, et cela est dû à la stabilité thermique et aux propriétés mécaniques du tube. Voilà, donc j'en ai fini avec ce panorama des propriétés. Alors ça, c'est un schéma certainement non exhaustif des propriétés. On est peut-être à la veille de découvrir de nouvelles propriétés. Mais avec ce premier panorama, nous allons pouvoir envisager les perspectives d'application telles qu'elles se dessinent au fil des recherches qui sont développées au cours des mois. L'idée, c'est d'exploiter et de coupler les propriétés des nanotubes pour deux types de choses. Premièrement, utiliser le nanotube en tant que nano-objet, c'est-à-dire vraiment développer une science à l'échelle du nano-objet. Et deuxièmement, développer des matériaux macroscopiques à base de nanotubes pour en modifier les propriétés et les fonctions. Et on va tout d'abord s'intéresser au premier type d'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation en tant que nano-objet. Alors, le premier champ d'application concerne évidemment l'utilisation des propriétés de conduction électrique. Le nanotube, comme on va le voir dans un instant, est vraiment un objet de choix pour le développement de la nanoélectronique. Le deuxième champ d'application, eh bien, c'est d'utiliser son extrémité pour exploiter ses propriétés d'émission son champ, mais également pour se servir du tube comme d'une pointe et d'une sonde pour les microscopes. On verra ça tout à l'heure également. Le troisième type d'application, eh bien, concerne l'utilisation de sa surface externe. On va essayer de greffer, d'accrocher des objets à la surface des nanotubes, comme des molécules ou des cristaux. Ce faisant, une fois qu'on a accroché ces entités, eh bien, on modifie les propriétés des nanotubes. Par exemple, on va modifier leurs propriétés de conduction électrique ou on va modifier leur réactivité chimique. Et de cette façon, on peut par exemple obtenir des capteurs chimiques extrêmement sensibles. C'est-à-dire des tubes qui, une fois fonctionnalisés, vont être capables de détecter et d'identifier soit des molécules, soit des gaz, et ce, de façon extrêmement sensible. Alors, par exemple, on peut penser utiliser ces capteurs pour séquencer des groupes fonctionnels dans des grosses molécules. Par exemple, séquencer les gènes sur l'ADN, par exemple. On peut également s'en servir pour détecter des gaz en très faible quantité. Ici, on a accroché des petites molécules, des petits cristaux de palladium. Eh bien, il se trouve que le palladium a la propriété de pouvoir décomposer très facilement l'hydrogène, ce qu'il ne manque pas de faire dans cette situation. Et ceci est réversible. Donc on obtient ici un objet qui est capable de détecter et de stocker des atomes d'hydrogène. Enfin, le dernier type d'utilisation concerne l'utilisation de la cavité intérieure. Donc là, il s'agit de stocker des gaz ou des molécules à l'intérieur du tube et de se servir du tube, pourquoi pas, comme d'un creuset de synthèse en faisant réagir les objets que l'on aura fait rentrer dans le tube. Alors je vais vous parler essentiellement de ces deux champs d'application qui concernent l'utilisation des propriétés électriques et les propriétés de l'extrémité des tubes. Et je commence par les propriétés, par le développement de la nanoélectronique. Bon, alors ça, je pense que pour ceux qui ont suivi les conférences précédentes, vous êtes tout à fait au fait de ce qu'on entend par nanoélectronique, mais je rappellerai toutefois que, vous savez qu'on cherche à miniaturiser de plus en plus les dispositifs électroniques, et ce, dans un triple but. En fait, on cherche à gagner en taille. On a envie d'avoir les objets, les portables, les ordinateurs les plus petits possibles, mais on cherche également à gagner en efficacité de transmission et en gain d'énergie. Alors, cette course à la miniaturisation permet de prévoir que d'ici 10-15 ans, il faudra trouver un remplacement aux matériaux utilisés actuellement en électronique, que sont le silicium et d'autres semi-conducteurs. Et une voie possible pour obtenir la miniaturisation qui sera celle dont on aura besoin à cette échéance, eh bien, c'est de développer une électronique à base de molécules. Et là, le nanotube est vraiment un objet extrêmement intéressant. C'est un objet d'étude, mais non seulement ça, il est en passe de devenir peut-être la clé des composants moléculaires des dispositifs que nous aurons dans les mains dans 10-15 ans. Alors pourquoi ? Eh bien, en fait, vous savez que quand on parle d'un circuit électronique, c'est fait de quoi ? C'est fait de fils de connexion et c'est fait de composants fonctionnels ou logiques. Les fils de connexion sont faits à partir de fils métalliques et les composants fonctionnels ou logiques sont faits avec des semi-conducteurs. Eh bien, avec les nanotubes, on a une pierre de coup. Parce que non seulement on a un objet d'une taille moléculaire, mais cette molécule, suivant sa configuration géométrique, est conductrice, donc métallique ou semi-conducteur. Qui plus est, on a affaire à une molécule qui est extrêmement simple sur le plan chimique, qui est très stable thermiquement, et donc elle a absolument tous les atouts pour fabriquer les composants et tous les éléments qui rentrent dans un circuit électronique. Alors, les premières choses, c'est d'utiliser les nanotubes conducteurs comme fils de connexion. Les fils de connexion seront évidemment de taille extrêmement réduite. Et du fait de la stabilité chimique et thermique des nanotubes, ces fils peuvent supporter de très forts courants, bien plus forts que ne peuvent le supporter des fils métalliques de même dimension. Ils peuvent supporter des courants sans frémir, alors que ces courants vaporisent des fils d'or ou de cuivre. Et puis, grâce à leurs propriétés, à leur excellente conduction thermique, ils vont être capables de dissiper la chaleur extrêmement rapidement. Donc, ce sont des candidats très, très intéressants pour les fils de connexion. Alors, les nanotubes semi-conducteurs, en fait, sont des candidats très intéressants pour les composants fonctionnels ou logiques. Et depuis 3-4 ans, on a montré qu'on était capable de construire, de fabriquer tous les composants qui rentrent basiquement dans un circuit électronique à l'aide de ces nanotubes semi-conducteurs. Alors, le premier élément, la base, la brique élémentaire d'un circuit électronique, c'est le transistor. Alors le transistor, c'est un interrupteur qui coupe, amplifie ou module un courant électrique. Alors dans un système moléculaire, les transistors à effet de champ moléculaire sont construits de la façon suivante. On dispose un nanotube entre deux électrodes, deux fils métalliques. Alors vous voyez le nanotube ici en orange et les fils métalliques qui sont de l'or, qui ont été obtenus par des méthodes lithographiques classiques qui sont celles utilisées pour fabriquer les circuits intégrés. Alors ces électrodes sont beaucoup plus grosses, évidemment, que le nanotube. Et donc le nanotube va servir de canal à travers lesquels les électrons vont circuler entre la source et le drain. Et on dispose d'une troisième électrode qui est sous la surface, donc qu'on appelle la grille, qui est la plaque de silicium. Et cette troisième électrode crée un champ électrique perpendiculaire qui va permettre de moduler le courant qui passe entre le source et le drain. Les chercheurs ont montré qu'il était possible de moduler par d'un facteur 1 million l'intensité du courant qui peut circuler entre la source et le drain. Et ce, avec un gain d'énergie bien... avec une économie d'énergie bien meilleure que celle que l'on obtient avec les processeurs actuels et des temps d'interrupteurs qui sont beaucoup plus rapides que les dispositifs actuels. En fait, ce dispositif moléculaire à nanotubes est le transistor moléculaire le plus intéressant à l'heure actuelle. Alors, le deuxième composant électronique que l'on a su fabriquer avec des nanotubes, eh bien, c'est la diode. La diode, c'est une jonction métal-semi-conducteur qui ne laisse passer le courant que dans un sens, du côté métallique, lorsqu'on applique un potentiel de la bonne polarité. Alors, des jonctions métal-semi-conducteur, eh bien, il y en a naturellement dans les nanotubes. Vous vous rappelez ce tube coudé dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le coude qui modifie l'hélicité des tubes. Eh bien, il se trouve que ce système est une jonction métal-semi-conducteur parce que la partie haute ici, qui est zigzag, est semi-conductrice, alors que la partie créneau en dessous est conductrice. Et effectivement, l'université de Delft, qui a étudié ces tubes, vous avez ici le dispositif expérimental, alors je ne sais pas si vous le voyez, le tube coudé est ici, a montré que ce dispositif fonctionnait comme une diode rectificatrice. Le pas suivant a été obtenu en réalisant une mémoire moléculaire. Alors, qu'entend-on par mémoire moléculaire ? Eh bien, il s'agit d'une molécule qui peut exister dans deux états. Un état où elle va conduire et un état où elle ne va pas conduire. Et elle passe d'un état à l'autre en lui appliquant une impulsion électrique. Entre deux impulsions, son état ne change pas, ce qui constitue l'état mémoire. Alors, on a réalisé une mémoire à base de nanotubes de la façon suivante. Suivant le schéma qui est donné ici, on a réalisé une matrice de nanotubes en suspendant des nanotubes entre des plots, donc des plots qui sont obtenus par des techniques lithographiques, et ces nanotubes se croisent. Alors, au niveau des croisements, ils peuvent se toucher, comme ici. Là, à ce moment-là, le circuit est fermé, ou au contraire, ne pas se toucher, et là, le circuit est ouvert. Pour fermer le circuit, il suffit d'appliquer des potentiels de polarité différentes aux électrodes qui connectent les tubes en question. Pour ouvrir, alors les tubes, en fait, s'attirent, se chargent électrostatiquement, et s'attirent, se déforment et se collent. Pour ouvrir le circuit, eh bien, il suffit d'appliquer des polarités de même signe aux électrodes, et à ce moment-là, les tubes se décollent. Donc, c'est la première matrice d'éléments mémoire. Chaque nœud, ici, sert d'élément mémoire. La dernière étape a été franchie l'été dernier par IBM aux États-Unis, qui a réalisé la première fonction logique à base de nanotubes. Alors, toutes les fonctions logiques qui servent à faire le calcul dans les ordinateurs sont obtenues en associant des transistors. Et en l'occurrence, ici, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à associer deux types de transistors. Des transistors avec des nanotubes qui sont dopés. Alors, les nanotubes dopés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des nanotubes auxquels on a apporté des impuretés chimiques qui leur donnent ou leur retirent des électrons. Alors, pour ce... Donc, ils ont réalisé une association de deux transistors, un transistor avec un nanotube à qui on a donné des électrons, donc c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur de type N, et à côté, un transistor obtenu avec un nanotube auquel on a retiré des électrons, donc un semi-conducteur de type P. Eh bien, cette jonction PN fonctionne comme un inverseur logique. Alors, concrètement, comment a-t-on réalisé ces dopages N ou P ? Eh bien, le dopage P a été obtenu en exposant les nanotubes à l'oxygène. Ensuite, on a posé un masque sous la forme d'un film de polymère. Et la partie qui n'était pas masquée par le film a été exposée à une vapeur de potassium qui l'a dopée de façon N. Donc, c'est très astucieux et cet inverseur fonctionne très, très bien. Alors, bon, ce que je vous ai décrit ici, ce sont de très, très jolies expériences de physique qui ont été obtenues avec des techniques très sophistiquées, qui sont celles qui sont utilisées pour construire les circuits intégrés, donc toutes les techniques de lithographie, couplées avec les outils de microscopie à force atomique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont permis de localiser les tubes, les manipuler, les poser comme il faut dans les dispositifs. Alors, il est évident qu'on est loin de savoir construire une architecture complète d'un circuit intégré avec ses composants, ce qui nécessite de fabriquer des millions de composants de façon simple et automatique. Et en fait, pour arriver à ce résultat, pour reprendre le terme d'un professeur de Harvard, eh bien, ce n'est pas une nano-affaire. Il y a un certain nombre de défis à relever. Le premier d'entre eux, c'est le contrôle de l'électricité des tubes. Malheureusement, on ne sait pas à l'heure actuelle contrôler l'électricité des tubes pendant la synthèse. Les nanotubes, ils ont l'électricité, ils ont des électricités, toutes celles qu'ils veulent bien avoir. Ça, c'est un sacré problème. Et évidemment, plusieurs groupes travaillent de façon très active à résoudre cette difficulté. L'idée qui prévaut en ce moment, c'est d'essayer de trier les tubes par électricité, par voie chimique ou par d'autres voies. Par exemple, on peut faire passer des courants très forts qui vont brûler les tubes métalliques et on ne gardera que les tubes semi-conducteurs. Le deuxième défi, eh bien, c'est de contrôler les connexions des tubes. Vous avez vu que dans les dispositifs que je vous ai montrés, les tubes sont connectés à des très gros objets qui sont ces électrodes obtenues par les voies lithographiques. Et le problème des contacts électriques, des résistances de contact entre les tubes et ces électrodes sont difficiles à gérer et à contrôler. Enfin, eh bien, il faut trouver le moyen de fabriquer des composants par million. Alors, une méthode qui permettrait de résoudre ces problèmes et qui semble très, très prometteuse, c'est d'utiliser les voies moyenne température de synthèse des nanotubes, où on fait pousser des tubes à partir de plots de catalyseurs. L'idée, c'est d'utiliser ces méthodes pour faire pousser des tubes suspendus à partir de plots de silicium directement dans des circuits intégrés que l'on aura fabriqués par voie conventionnelle par ailleurs. Et vous voyez ici deux exemples de réalisations qui vont dans ce sens. La première obtenue par l'université de Stanford et l'autre développée par le CNRS à Grenoble qui est très actif dans ce domaine en ce moment. Alors vous voyez ici les plots hein, qui sont des véritables pieux à l'échelle des nanotubes. Et les nanotubes, qui sont ces fils, on a l'impression d'avoir du fil à linge là, entre deux pieux. Et en fait, ces fils, eh bien, ce sont des nanotubes monofeuillets de carbone. Et vous en avez d'autres exemples ici. Et c'est peut-être la voie pour construire des réseaux, des matrices de nanotubes. Alors, il me faut passer à un deuxième type d'application, parce que le temps passe. Et ce deuxième type d'application concerne l'émission sous champ. Alors, je vous ai dit que les nanotubes étaient des sources froides d'électrons extrêmement efficaces. Et à partir, on a cherché à exploiter cette propriété pour développer un certain nombre de dispositifs que sont d'une part les éléments luminescents et d'autre part des écrans plats multicouleurs. Alors, les éléments luminescents sont des lampes telles qu'elles ont été développées par une société japonaise ou des tubes dont vous avez un exemple ici, développé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Ces tubes présentent des brillances deux fois plus élevées que les tubes conventionnels, avec une économie en énergie d'un facteur 10 à peu près, ce qui est vraiment très intéressant, et des stabilités dans le temps qui sont absolument remarquables. Ces tubes fonctionnent depuis 10 000 heures sans baisse de propriété. Ici, vous avez à droite un exemple d'écran plat multicouleur. C'est la société Samsung en Corée qui est extrêmement active dans ce domaine et qui a développé ces écrans et qui prépare un prototype pour le courant de l'année ou de cette année ou de l'année prochaine. Alors évidemment, la clé dans cette histoire, c'est d'arriver à fabriquer une couche de nanotubes qui va présenter la bonne densité d'émetteurs. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette histoire. Et une façon de procéder, eh bien, c'est d'utiliser à nouveau les méthodes CVD, c'est-à-dire les méthodes de synthèse utilisant la décomposition sur des plots catalytiques, combinées de nouveau à des méthodes de lithographie. Et c'est la voie que développe, par exemple, Thales en France, dont vous avez ici un exemple de ce qu'ils ont réalisé. Donc vous avez un substrat. Sur ce substrat, on a déposé en noir des plots de catalyseurs de façon très régulière, avec une densité qui va donner des propriétés d'émission tout à fait intéressantes. Et on a fait pousser, de façon orientée, des nanotubes multifeuillets à partir de ces plots. Alors, la deuxième utilisation des pointes que représentent les nanotubes consiste à les utiliser comme sonde en microscopie de surface. Alors, je vous ai parlé des microscopies de surface, que sont la microscopie à force atomique et la microscopie tunnel. Alors, voilà une pointe de microscopie de surface. C'est un véritable pieu. Et l'idée, eh bien, c'est de coller un nanotube ici, ou de faire pousser par CVD un nanotube, qui donc est une pointe beaucoup plus fine. Alors, on gagne évidemment en résolution d'image, puisque la résolution est convolué par le rayon de courbure de la tube, par le rayon de courbure de la pointe. Donc ceci va permettre d'imager les surfaces et les molécules avec une résolution bien meilleure. Mais on peut faire encore mieux. On peut accrocher des molécules à cette pointe. Et à ce moment-là, on obtient une sonde chimique qui va être capable de reconnaître des groupements chimiques à la surface. Donc on va pouvoir faire des cartographies chimiques de la surface. Et également ces pointes vont servir d'outils de manipulation d'autres objets en surface et d'outils pour faire ce qu'on pourrait appeler la nanolithographie. Oui. J'en arrive, pour terminer, au deuxième type d'utilisation des nanotubes qui consiste à chercher à développer des matériaux macroscopiques à base de nanotubes. L'idée, c'est d'incorporer des nanotubes dans des matériaux pour en modifier les fonctions et les propriétés, qu'il s'agisse de propriétés mécaniques, électriques, thermiques ou autres. Alors vous avez ici un exemple d'un matériau où on a mélangé à peu près, c'est une résine époxy, où on a mélangé 20% en masse de nanotubes. Et bien ce type de matériau a un module d'élasticité deux fois plus élevé que 100 nanotubes. On peut également modifier fortement les propriétés de conduction électrique d'un nanotube, d'un polymère isolant, et l'Institut des matériaux à Nantes travaille activement dans ce domaine. Alors, une autre façon de mettre en forme les nanotubes pour obtenir un matériau, c'est de fabriquer des films et des fibres de nanotubes. Et je vous montre ici des fibres de nanotubes qui ont été mises au point au CNRS à Bordeaux de façon très astucieuse. Vous avez ici une image agrandie de cette fibre. Les nanotubes sont alignés, sont tous parallèles, enfin à peu près tous parallèles, et forment une fibre macroscopique. Et ces fibres, eh bien, peuvent être utilisées comme capteurs ou actionneurs avec des propriétés très, très intéressantes. Il est temps pour moi d'arriver à la conclusion. Et en commençant, je voudrais commencer cette conclusion par faire un bilan sur ce que nous vous avons appris sur les nanotubes. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un cristal unidimensionnel de carbone qui avait la taille d'une molécule et qu'il présentait un ensemble inégalé de propriétés variées et modulables que l'on peut conjuguer entre elles. Alors, il fait maintenant hors de doute que les nanotubes trouveront des applications et les défis qu'il y aura à relever dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est de savoir passer de l'expérience, de la belle expérience de laboratoire, comme celle que je vous ai montrée, à l'application à grande échelle. Et je dirais que dans ce contexte, les sciences du vivant vont peut-être nous être très utiles, parce que les sciences du vivant travaillent avec des molécules qui ont la même taille que les nanotubes. Donc comprendre comment les molécules dans le vivant s'organisent et forment des architectures va certainement être très utile pour concevoir les bonnes architectures à base de nanotubes. Donc pour terminer, je dirais que les nanotubes sont d'abord un modèle extraordinaire pour la recherche fondamentale, pour développer tout ce qu'on appelle les nanosciences, mais que c'est sans aucun doute un objet extrêmement intéressant pour la recherche appliquée. Les applications à base de nanotubes, c'est devenu une réalité. Et les nanotubes, leurs grands intérêts, qui en font une figure emblématique, c'est qu'ils présentent des potentialités à la croisée de plusieurs disciplines. Donc c'est un vecteur entre plusieurs disciplines, et ça, c'est assez extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Eh bien, j'aimerais d'abord vous remercier pour cet exposé très intéressant et très clair. Mais j'ai vu que dans vos projections, il y avait une propriété que vous avez laissée de côté. J'ai cru comprendre qu'il y avait la possibilité d'avoir des nanotubes où il n'y avait pas de dissipation d'énergie, j'imagine, oui. De supraconducteurs, j'imagine.
Oui, ça, j'en ai pas parlé, effectivement.
Oui, vous n'en avez pas parlé.
Non, j'en ai pas parlé pour simplifier.
Ah.
Effectivement, il a été montré par un groupe à Orsay en particulier que les nanotubes pouvaient présenter des propriétés de supraconduction.
Oui. Dopés ou non dopés ?
Non dopés. Alors, bon, c'est pas encore extrêmement clair. Il y a ce qu'on appelle de la supraconductivité de proximité, c'est-à-dire que les nanotubes sont connectés à quelque chose,
et qui c'est
cette connexion, voilà.
Qui est supra.
Mais il semble que les nanotubes puissent être des supraconducteurs intrinsèques.
Non, sans compter que quand vous les dopez, par exemple, avec du fullerène, du fullerène dopé, on a montré que ça pouvait être supra.
Oui, oui. Non, oui. Mais c'est clair qu'il y a effectivement tout un champ de ce côté-là. Oui.
Possible. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Le prix Nobel Stieglitz de cette année, en économie, nous dit qu'il faut utiliser déjà, avant de passer. C'est toujours l'effet de dimension entre la science et l'industrie. Alors, on pourrait, avec les semi-conducteurs, avoir des résistances nulles entre la Chine et l'Europe. Ah non, mais nous n'avons plus de charbon, on n'a plus de pétrole maintenant, puisque les réserves sont épuisées, mais les Chinois ont des montagnes de charbon. Alors, ils peuvent carboniser, comme on faisait en Russie en 1935 ou en France, carboniser au fond des mines, ce n'est pas polluant, et puis transporter à travers les continents jusqu'aux gens qui veulent l'utiliser, comme l'Europe, qui va être privée de beaucoup de choses. Alors, quel est votre avis là-dessus ?
Écoutez, là-dessus, non, je n'ai pas d'idée personnelle, mais je dirais que dans ce type de projection, des scientifiques américains ont imaginé qu'on pourrait utiliser les nanotubes pour faire des câbles pour relier la Terre à des satellites mis en orbite. Donc ça reprend votre idée de distance. Là, la distance est peut-être encore plus grande. Bon, alors je ne suis pas qualifiée pour dire si ce sont des choses complètement utopiques ou pas, mais l'idée est assez frappante. Le schéma est assez frappant.
Pourquoi la synthèse en moyenne température, la réalisation suivant que l'on veut une multicouche ou une monocouche, est fonction de la température ?
C'est une question qui n'est pas complètement élucidée. Il semble... Bon, je travaille moi-même pas mal sur les mécanismes de croissance des nanotubes, donc c'est le genre de question qui m'interpelle directement. On constate qu'avec les méthodes catalytiques, en fait, à basse température, les particules de catalyseurs dont on a besoin sont assez grosses. Et ce qui se passe, c'est qu'on décompose le carbone à la surface du catalyseur, et ce carbone, on décompose l'hydrocarbure qui libère le carbone, et le carbone précipite à la surface du catalyseur suivant une structure graphitique. D'accord ? Et c'est ça qui est à l'origine de la formation du tube. La température favorise plutôt les tubes de petit diamètre, hein, plutôt que ces tubes multifeuillets, je crois qu'il n'y a pas encore de réponse définitive à cette question.
Qu'appelle-t-on exactement, qu'entend-on exactement par fibre de carbone et comment la fibre de carbone se situe-t-elle par rapport aux autres structures de carbone dont vous nous avez parlé, que nous connaissons, le graphite, diamant et bien sûr les nanotubes?
Alors, la fibre de carbone, c'est une fibre pour positionner sa dimension par rapport aux nanotubes. C'est une dimension de l'ordre du micron. Donc vous avez un objet qui est beaucoup plus gros que le nanotube. Et la fibre de carbone est constituée de carbone qui est mal graphité, pour simplifier. Donc, il est vrai qu'on peut, en utilisant les méthodes catalytiques dont j'ai parlé, ce sont les méthodes qui sont utilisées pour faire pousser ces fibres. Et là, on part aussi d'un petit noyau de particules métalliques. On commence probablement, le premier stade, c'est de faire un nanotube. Et ensuite, on a un stade d'épaississement, ce qu'on appelle un stade d'épaississement, où on fait arriver du carbone qui précipite de façon pas très bien organisée, ce qu'on appelle du carbone turbostratique ou autre. Je ne suis pas spécialiste des fibres de carbone pour vous donner sans faute tous les termes qui sont utilisés par les spécialistes du domaine, mais en gros, c'est du carbone pas très bien organisé, et on peut faire épaissir la fibre jusqu'au diamètre que l'on veut. Donc vous voyez, il y a ce facteur d'échelle et cette perfection cristalline qui font la différence entre les tubes et la fibre.
Est-ce qu'on peut créer des nanotubes dans d'autres matériaux que le carbone ?
Oui, absolument.
Dans tous les éléments et dans toutes
non.
les...
A priori, alors évidemment, c'est une question qui s'est posée très vite. Est-ce qu'il est possible d'obtenir des nanotubes avec d'autres matériaux que le carbone ? Et a priori, il semble que les structures... lamellaires, c'est-à-dire des structures qui consistent d'empilement de plans, comme le graphite, sont des bons candidats. Et la première structure d'entre elles qui répond à ce critère, c'est ce qu'on appelle le nitrure de bore hexagonal. Vous prenez le graphite et en fait, vous substituez, vous alternez sur les nœuds du réseau d'hexagone, bore et azote. Et vous obtenez le nitrure de bore hexagonal. Eh bien, nous avons montré à l'ONERA et en liaison avec l'École Polytechnique, qu'il était possible de synthétiser des nanotubes en nitrure de bore, multifeuillets et monofeuillets. Et ces nanotubes, nous commençons à étudier leurs propriétés, ce sont des isolants à grand gap, des gaps de l'ordre, des gaps très, assez élevés, et ils pourraient être des objets extrêmement complémentaires des nanotubes de carbone.
C'est une question sur la longue... La longueur des nanotubes, vous avez indiqué un ordre de grandeur typique,
oui.
10 microns, je crois, maxi. Est-ce qu'il est possible d'aller au-delà?
Oui.
Et qu'est-ce qui limite éventuellement la longueur des nanotubes?
Merci. Il est possible d'aller au-delà. Certains ont fait des tubes de longueur, je crois, quasi millimétrique. En fait, tout dépend comment on contrôle les conditions de synthèse. Parce que autant qu'on peut comprendre la formation des nanotubes, il y a un stade de nucléation, puis un stade de croissance. Et les conditions, il faut que les conditions locales ne changent pas pendant le stade de croissance. Et si on arrive à les maintenir constantes, et qu'on arrive à approvisionner en carbone de façon constante, on peut faire pousser les tubes aussi long qu'on veut.
Vous l'avez peut-être dit, mais ça m'a échappé. Quelle est la densité des nanotubes ?
Alors, elle est très très faible. Un nanotube lui-même, c'est une molécule. Donc, quand on synthétise, c'est dommage, j'ai oublié d'apporter un échantillon pour que vous voyez ce que c'est. Ça se présente comme une espèce de poudre très très légère, hein, qui est noire pour le carbone, qui est beige bleuté pour les nanotubes de nitrure de bore. Et puis souvent, ça a un aspect un peu filamenteux, comme vous avez vu sur la photo. Alors, on peut obtenir des densités variables en pressant plus ou moins les nanotubes, mais c'est des densités extrêmement faibles. Je n'ai pas de chiffres à vous citer, parce que ça dépend tellement de la façon dont on presse les tubes pour faire les films.
Eh bien, Annick Loiseau, merci beaucoup.